Merci de rester à l'écoute de RFI. Les midis à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Paul Lonsin-Spinelli. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, ce jugement qui pourrait chambouler la course à la prochaine présidentielle en France. Marine Le Pen a été reconnue coupable ce matin de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Tous les élus mis en cause viennent d'apprendre qu'ils seront condamnés à une peine d'inéligibilité. Reste maintenant à savoir si cette peine sera appliquée provisoirement pour la chef de file de l'extrême droite, ce qui entraverait sa candidature pour 2027. Dans une minute, nous serons aux côtés des partisans de Marine Le Pen dans son bastion d'Hénin-Beaumont dans le nord de la France. Une semaine de deuil national annoncée en Birmanie. Les sauveteurs continuent de s'activer pour tenter de retrouver des survivants du séisme de vendredi qui a fait au moins 1700 morts dans le pays. À Mandalay, grande ville située à proximité de l'épicentre, les habitants vivent au milieu des ruines. Témoignage à suivre. Et puis à Gaza, le Hamas appelle ce matin quiconque à porter les armes à combattre le plan d'émigration des Palestiniens voulu par Donald Trump. C'est une décision qui pourrait bouleverser la scène politique française. Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement National, a été reconnue coupable ce matin de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs d'attachés parlementaires européens. À l'annonce du jugement se poursuit en ce moment. On ne connaît pas encore quelle peine d'inéligibilité sera retenue, ni si elle sera exécutée provisoirement, ce qui pourrait empêcher Marine Le Pen de concourir à la présidentielle française dans 2 ans. Tout de suite, on se rend à Hénin-Beaumont, c'est dans le nord de la France, c'est aussi le fief de Marine Le Pen. Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place et vous êtes auprès de sympathisants RN qui suivent donc le jugement en direct.
Oui, alors la ville d'Hénin-Beaumont, dans la ville d'Hénin-Beaumont, il y a aussi beaucoup de gens qui ne surveillent pas spécialement cette actualité sur Marine Le Pen. Je parlais à un habitant qui me disait pour le coup qu'il n'était pas du tout au courant et que les politiques c'est bonnet blanc, blanc bonnet, me disait-il. Mais effectivement, dans certains cafés, comme celui où je me suis rendu, on voit des habitants. Je parlais à 2 retraités qui me racontaient un petit peu suivre avec attention ce qui se passe. C'est normal de s'intéresser à ce sujet-là. Et ces 2 hommes, ces 2 retraités m'expliquaient qu'ils trouvaient totalement anormal la possibilité que Marine Le Pen ne puisse pas concourir potentiellement à la présidentielle de 2027. L'un d'eux me disait que la justice n'était pas juste, qu'elle n'était pas indépendante et que de toute façon ce serait Jordan Bardella qui prendrait le relais si Marine Le Pen ne pouvait pas se retrouver candidate. Il me disait que ça renforcerait même l'électorat du Rassemblement National, avec des sondages où le Rassemblement National montrait de plus en plus haut. Il y avait aussi des habitants qui me racontaient qu'ils n'étaient pas du tout gênés par la procédure en cours et le scénario d'une Marine Le Pen qui ne se présenterait pas. Je vous propose d'écouter Gérard tout de suite, qui était dans ce même café accompagné de sa femme.
Bah, je pense qu'elle est condamnable comme tout le monde. Il n'y a pas de raison. Moi, quand je fais une connerie, je la paye. Bah, elle a fait une connerie, elle le paye, hein, c'est tout. Hein.
Voilà, vous voyez, avis partagé donc à Hénin-Beaumont, dans ce fief de Marine Le Pen, où certains habitants attendent avec tout de même impatience de savoir ce qu'il en est de l'avenir politique de la chef de file du Rassemblement National.
Merci beaucoup Victorien Villaume en direct d'Hénin-Beaumont. Dans un autre procès très suivi en France, celui des geôliers de l'État islamique en Syrie, le principal accusé, Mehdi Nemmouche, a déclaré par faire appel de sa condamnation à la prison à perpétuité par la voix de son avocat matin. L'homme de 39 ans purge déjà une peine similaire pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, où il avait abattu 4 personnes en 2014. Les drapeaux jaune, vert, rouge à étoiles blanches de la Birmanie sont en berne. La junte au pouvoir a décrété ce matin une semaine de deuil national jusqu'à dimanche après le séisme de vendredi dans le centre du pays qui a fait plus de 1700 morts. Hier, les opérations de secours se poursuivaient encore sous une chaleur de plomb à proximité de l'épicentre. Plus de 40 degrés ressentis notamment à Mandalay. C'est ici, dans la 2e ville du pays, que vit Madame Toutoulouine. Elle raconte que sur place, eh bien, les sinistrés s'organisent et vivent dans la peur de nouvelles secousses.
Le tremblement de terre n'est pas encore fini complètement. Chaque 2-3 heures, il bouge encore. Et la nuit, les gens n'osent pas dormir dans la maison. Et donc, ils dorment dans les terrains de football, ou bien qui dorment dans la voiture à l'extérieur de la maison. Et puis, ça fait 3 jours qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité. Pour pour la nourriture, pour l'eau, le gouvernement ne peut pas faire encore parce qu'ils ont occupé avec des dégâts, des bâtiments qu'ils ont détruits. On a vu beaucoup de dégâts. Il y a des bâtiments qui sont tombés complètement et puis il y a des bâtiments qui ont penché à un autre bâtiment. Et puis il y a des bâtiments qui n'ont plus de rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est dans la terre. Les murailles des monastères s'est tombé. Il y a des routes qu'ils ont bloquées aussi, ouais.
Un propos recueilli au téléphone par Grégoire Motte. Le gouvernement israélien fait le sourd et nomme un nouveau chef du renseignement intérieur. En dépit du gel du limogeage du directeur en exercice du Shin Bet, Benjamin Netanyahou a choisi hier Eli Shavit, ex-commandant de la marine, pour prendre sa place. Il y a 10 jours, le premier ministre israélien avait décidé de licencier Ronan Bar en raison d'une perte de confiance professionnelle et personnelle. Le chef du gouvernement israélien qui a aussi redit hier soutenir le projet de Donald Trump pour faire émigrer les Palestiniens hors de Gaza. Ce matin, le Hamas a appelé quiconque peut porter les armes à s'opposer à ce plan qualifié de diabolique. Soutien du Hamas justement et ennemi juré d'Israël, l'Iran promet une riposte ferme en cas de bombardements américains. L'avertissement a été lancé ce matin par le guide suprême iranien Ali Khamenei après des déclarations martiales de Donald Trump hier. Lors d'un entretien à la chaîne NBC, le président américain a menacé la République islamique de frappe, donc voire de nouveaux droits de douane en cas d'échec dans les négociations sur le nucléaire iranien. Ces nouveaux pourparlers, c'était une idée émise par Washington dans une lettre adressée à Téhéran. Selon le président iranien Massoud Pezeshkian, une réponse a bel et bien été donnée par l'intermédiaire d'Oman, Siavosh Ghazi.
Téhéran refuse des négociations directes avec les Américains, mais accepte des négociations indirectes, a déclaré le président iranien, alors que Donald Trump a menacé de nouveau l'Iran de bombardements sans précédent en cas de non-accord sur le dossier nucléaire.
Le guide suprême iranien a souligné que des négociations indirectes pouvaient avoir lieu. Nous n'avons jamais fui les négociations. C'est le non-respect des engagements qui nous a créé des problèmes. Les Américains doivent nous prouver qu'ils peuvent créer la confiance en ce qui concerne les décisions.
Une allusion à la sortie du président Trump de l'accord nucléaire de 2015 lors de son premier mandat et les sanctions qui ont suivi. Cet assouplissement de l'Iran intervient alors que la situation économique est de plus en plus difficile avec une chute vertigineuse de la valeur de la monnaie iranienne depuis 6 mois. Un euro valait 600 000 rials et vaut aujourd'hui presque le double, ce qui a provoqué une inflation devenue incontrôlable avec un mécontentement social et politique dans toutes les couches de la société. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et puis son œuvre majeure avait déclenché un torrent de violence de l'extrême droite en France. Yves Boisset, réalisateur de Dupont-la-Joie, film qui revenait sur une série de meurtres racistes à Marseille, est décédé ce lundi en banlieue parisienne. Il avait 86 ans. Retour sur la carrière du cinéaste avec Elisabeth Le Quéré.
Il se revendiquait comme le cinéaste le plus censuré de France. Ce n'était pas tout à fait faux. Dans les années 70, le nom d'Yves Boisset était synonyme de cinéma politique. Dès ses premiers films, il impose sa patte. En 72, l'attentat s'inspire de l'affaire Ben Barka. RAS, qui aborde le sujet de la torture pendant la guerre d'Algérie, est lourdement censuré. Et dans Dupont-la-Joie, Jean Carmet joue un bistrotier ordinaire devenu meurtrier puis instigateur d'un lynchage raciste. Le film marque les esprits au point que l'expression Dupont-la-Joie va rester et entrer dans le langage courant pour désigner le français moyen pétri de préjugés. Après cet immense succès, Boisset poursuit son exploration des collusions entre politique et criminalité avec le juge Fayard, dit le shérif. La censure s'acharne encore. Chaque mention du sac, le service d'ordre du parti gaulliste est remplacé par un bip sonore. Dans les années 90, Yves Boisset s'était tourné vers la télévision, réalisant des téléfilms sur Dreyfus, Seznec ou encore Jean Moulin. Il laisse l'image d'un réalisateur courageux qui, caméra au point, n'a jamais renoncé à questionner les zones d'ombre du pouvoir.
Elisabeth Le Quéré, je vous rappelle que l'on suit le procès du RN sur RFI. On vient d'apprendre à l'instant que la peine d'inéligibilité décrétée à l'encontre de Marine Le Pen allait être exécutée immédiatement, ce qui pourrait entraver sa candidature en 2027. À suivre tout de suite sur Radio France Internationale, 8 milliards de voisins.